Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Le chapitre 11 que nous allons regarder ensemble aujourd'hui nous raconte quelque chose de très spécial. Jean, celui qui avait baptisé plein de monde dans le Jourdain, celui qui avait annoncé Jésus comme le Messie, il s'était fait arrêter pour des raisons politiques. En fait, Hérode Antipas avait craint que celui-ci ne suscitât une révolte. Et maintenant, comme les autorités religieuses semblaient avoir des doutes également sur la personne de Jésus, lui-même, Jean, se mit à chanceler. Se serait-il trompé? Jésus et lui-même avaient annoncé la venue du royaume des cieux, et maintenant, lui enchaîné, Jésus rejeté. Que la vie de Jean aurait été tragique. Il aurait choisi la vie austère du prophète dans le désert, il se serait fait tout plein d'ennemis, surtout parmi les pharisiens et les sadducéens qu'il avait traités de race de vipères. Et tout ça pour rien. Et ceux qui ne le haïssaient pas déjà se moqueraient sûrement de lui à sa sortie de prison. En tout cas, l'angoisse de Jean était compréhensible, et c'est peut-être ce genre de pensée qui le hantait. Il a donc envoyé des amis poser à Jésus la question cruciale, la question autour de laquelle tourne finalement la vie de chacune et de chacun de nous. Jésus, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que ce n'est pas le levier de tout espoir? Jésus, es-tu celui que je crois qui tu es? Es-tu celui qui peut nous sauver, qui peut me sauver? Ou dois-je en attendre un autre? En posant cette question à Jésus, Jean fait preuve de courage, car le peuple qui est là à observer Jésus va bien apprendre que Jean a des doutes. Et pour sûr, certains d'entre eux se disent « Si même Jean n'en est plus sûr, que devons-nous penser de tout ça? Ne soyons pas dupes, nous avons toutes les raisons de douter de ce Jésus. » Matthieu ne mentionne pas les pensées du peuple, mais nous les soupçonnons entre les lignes. Mais tout d'abord, le Christ donne sa réponse à Jean. Il fait cela en citant le prophète Isaïe. Je lis les versets 4, 5 et 6. Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Disant cela, Jésus va affermir la foi de son ami. Oui, en accomplissant les prophéties, Jésus confirme être le Messie tant attendu. Mais moi, ce que dit le Christ, c'est la question de Jean qui semble avoir mis la puce à l'oreille de la foule. Le verset 7 commence par les mots « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire, etc., etc. » Comme il s'en allait. C'est fou ce qu'il en fait au peu pour décevoir les foules. Une émotion chasse l'autre. Les gens, encore enthousiastes il y a quelques instants, maintenant se jetaient des regards, secouaient la tête, murmuraient entre eux, et finalement ils partirent l'un après l'autre. C'est comme ça que je me l'imagine. Jean-Baptiste, que les foules avaient considéré comme un grand prophète, un nazaréen charismatique à la voix qui portait, un homme qui semblait ne craindre personne. Il était tellement convaincant lorsqu'il annonçait Jésus comme le Christ, le Messie. Mais maintenant, si lui-même avait des doutes sur l'identité de Jésus, tout chancelait et il perdait sa crédibilité. Jésus, voyant leur réaction, les reprit assez sévèrement. Permettez-moi de vous lire les versets 7 à 12. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui-ci dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. En d'autres mots, Jésus leur reproche d'être animés par des émotions superficielles. Et maintenant, leur déception était tout aussi superficielle. Ils avaient cru que Jean était comme eux, un roseau agité par le vent, un riche habillé en pauvre pour divertir la foule. Mais Jésus les reprend. Non, Jean-Baptiste était bien le plus grand de tous les prophètes, encore plus grand qu'Abraham et Moïse, puisqu'il avait eu le privilège d'annoncer le Messie. Jésus va même plus loin. Il va comparer les Israéliens de son époque à des enfants capricieux qui veulent jouer avec tout le monde selon leur humeur du jour. En disant cela, il leur reproche d'être immatures et met en évidence la raison réelle pour laquelle les chefs religieux le rejettent. Parce que ni Jean, ni lui-même ne se sont soumis à leurs enseignements qui ne venaient pas de Dieu, mais d'eux-mêmes. Ils avaient donc cherché une excuse et dit « Jean-Baptiste jeûne et ne boit pas d'alcool, donc il est possédé. Jésus, par contre, il mange et boit, donc il est l'ami des pécheurs. » Maintenant, ceux qui voient en Jésus un pacifiste à l'eau de rose vont être déçus. Car en continuant dans ce chapitre, nous voyons comme Jésus maudit carrément trois villes. Chorazéine, Bethsaïde et Capernaum. Je cite les versets 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Fin de citation. Jésus les maudit parce qu'ils avaient été témoins de ces miracles et avaient entendu ses paroles. Le salut leur avait été présenté, mais ils ont préféré le rejeter. Tyr, Sidon et Sodome, par exemple, n'avaient pas eu ce privilège. Maintenant, il est important de rappeler qu'il s'agit de villes et non pas de ses habitants individuels. Par exemple, à Bethsaïde résidaient l'apôtre Pierre et son frère André, ainsi que Jean et son frère Jacques. Nathanaël et Philippe étaient, selon l'évangile de Jean, également de Bethsaïde. Quant à Capernaum, nous l'avons vu dans le chapitre 4 de Matthieu, que même Jésus y habitait. C'est tant que je sache la ville la plus citée dans le Nouveau Testament après Jérusalem. Cela nous montre qu'une malédiction n'est pas toujours synonyme de damnation. Une malédiction chez un humain peut aller jusqu'à la mort de cette personne ou, s'il s'agit d'une ville, que celle-ci tombe en ruine, comme cela a été le cas pour les trois villes citées en question ici. Le salut des habitants de Chorazin, Bethsaïde et Capernaum dépendait, comme chez nous tous, de leur foi en Jésus le Sauveur. Mais habiter dans une ville maudite ne facilitait sûrement pas les choses et apportait bien des malheurs. Nous arrivons finalement à la fin de ce monologue que Jésus adresse aux foules qui, déçues, étaient prêtes à le quitter. Il remercie Dieu d'avoir bien voulu ouvrir l'intelligence de ceux qui ont un cœur pur et simple. Car Dieu le Père seul connaît Jésus et seul Jésus connaît Dieu le Père. J'aimerais terminer cet épisode en vous lisant les derniers versets de ce chapitre, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.